Vous écoutez France Culture.
Pas la peine de crier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invité de cet après-midi s'appelle...
Mathieu Kreis.
Gardien dans différentes équipes de handball cette saison pour Massy et Son Handball. Il a aussi entraîné les gardiennes du club ICI Paris Handball. Avec lui, vous l'aurez compris, nous gardons les cages. Il s'agira de la quatrième étape dans cette semaine imaginée autour du mot « but ». Ça commence. Ce n'est pas parce que l'on a le plus gros marteau qu'il faut voir chaque problème comme un clou. Si nous étudions hier l'enseignement du Bouddha, il s'agit bien là d'un extrait du discours de Barack Obama prononcé le 28 mai dernier à l'Académie militaire du West Point. Autrement dit, et devant tirer quelques impératives conclusions devant l'échec de nombreuses interventions militaires, tournons notre langue au moins 7 fois dans notre bouche avant de considérer qu'une guerre stupide d'occupation, pour citer encore le président, est la solution. De même, ce n'est pas parce qu'on a des prisons bien punitives et bien génératrices de violence que toute justice doit en passer par là. Le marteau, les clous, tout ça. Merci Barack. Il est 16h, passé de 1 minute. Welcome in France. Vous écoutez France Culture et c'est pas la peine de crier. Sur l'image Polaroid du jour apparaît une lettre de motivation. Sur le plateau du milieu vers 16h20, la quatrième étape d'une semaine entièrement imaginée autour du mot « but ». Après avoir lundi abordé la notion de projet, après avoir mardi énuméré quelques buts de foot mémorables et la façon de les planter, après avoir hier soumis cette question du but à la pensée bouddhiste, aujourd'hui, on entend ceux et celles qui gardent les cages. Portrait de gardien. Vers 16h50, on écoute un poème de Gilles Heillot et à 17h, il sera temps de retrouver les équipes du 5 à 7. En attendant, nous sommes encore, et ce jusqu'à demain, dans la bibliothèque de la comédienne Ava Hervier. Aujourd'hui, elle tire de ses rayons littéraires un extrait du Théâtre des paroles de Valère Novarina. On l'écoute.
Si l'acteur ne se maquillait pas, on verrait sur son corps des marqures, des zébrages, des tachements parcourant les pidons. Tout le monde le voit, mais personne n'ose le dire, que quand il joue, l'acteur a la peau absolument transparente et qu'on voit tout ce qu'il y a dedans. Le corps de l'acteur, c'est son corps dedans, pas sa silhouette chic de marionnette stylée, pantin exécuteur, son corps profond du dessous, sans nom, sa machine à rythme, là où ça circule en torrent les liquides, chyme, lymphe, urine, larmes, air, sang, tout ça qui, par les canaux, les tuyaux, les passages à sphincter, dévale les pentes, remonte, pressé, déborde, force les bouches, tout ce qui circule dans le corps fermé, tout ça qui s'affole, qui veut sortir, pousser, refluer, qui, à force de se précipiter dans des circuits contraires, à force de courant, à force d'être renvoyé et expulsé, à force de parcourir le corps entier, d'une porte bouchée à l'autre bouche, à force, finit par se rythmer, se rythme à force, décuple sa force en se rythmant. Le rythme, ça vient de la pression, de la répression, et sort, finit par sortir, excréer, éjecter, jaculer, matériel. C'est ça la parole, la parle que l'acteur lance ou retient, et qui vient, fouettant le visage public, atteindre et transformer réellement les corps. C'est le principal liquide exclu du corps, et c'est la bouche qui est l'endroit de son omission. C'est ce qu'il y a de plus physique au théâtre. C'est ce qu'il y a de plus matériel dans le corps. C'te parle, c'est la matière de la matière, et on ne peut rien appréhender de plus matériel que ce liquide invisible et instockable. C'est l'acteur qui la fabrique, dans le corps respiré, quand elle lui passe par tout le corps, qu'elle emprunte tous les circuits à l'envers pour sortir au bout, par le trou de la tête. Mais il est clair pour tout acteur que ce n'est pas de là qu'elle vient et que si elle sort par la bouche, c'est pas facilement, pas naturellement, mais à force d'avoir parcouru tout le labyrinthe et après avoir essayé en vain tous les trous possibles. L'acteur n'exécute pas, mais s'exécute. Interprète pas, mais se pénètre, raisonne pas mais fait tout son corps raisonner. Construit pas son personnage mais se décompose le corps civil maintenu en ordre, se suicide. C'est pas de la composition de personnage, c'est de la décomposition de personnage, de la décomposition de l'homme qui se fait sur la planche. C'est intéressant le théâtre que quand on voit le corps normal de qui, en tension, en station, sur ses gardes, se défaire et l'autre corps sortir, joueur, méchant, voulant jouer à quoi ? C'est la chair véritable de l'acteur qui doit paraître. Les acteurs, les actoresses, on leur voit le corps, c'est ça qui est beau. Quand ça montre de la vraie chair mortelle, sexuée et languée au public des châtiers qui pensent en langue française éternelle et châtrée. L'acteur qui y joue vraiment, qui joue à fond, qui se joue du fond. Et il n'y a que ça qui vaut la peine au théâtre. Porte sur son visage défait, comme dans les trois moments, jouir, déféquer, mourir, son masque mortuaire, blanc, défait, vide. Vide partie du corps et non plus recto, expressif de la tête posée sur le corps postiche. Il montre blanc son visage portant son mort défiguré. L'acteur qui joue sait bien que ça lui modifie réellement son corps, que ça le tue à chaque fois. Et l'histoire du théâtre, si on voulait bien l'écrire enfin du point de vue de l'acteur, ça ne serait pas l'histoire d'un art, d'un spectacle, mais l'histoire d'une longue, sourde, entêtée, recommençante, pas aboutie, protestation contre le corps humain.
Ava Hervy, on entend ici un extrait de Théâtre des paroles qui réunit plusieurs textes de Valère Novarina, qui est à la fois dramaturge, théoricien du théâtre et metteur en scène de ses propres textes. Vous avez beaucoup parlé de corps, presque d'érotisme de la pensée, d'érotisme du jeu dans les jours qui précèdent. Est-ce que ce sont des textes, ceux de Novarina, sur lesquels vous appuyez par exemple votre conception du jeu en tant que comédienne ?
Ben, c'est vrai que ce texte... Il a été hyper important pour moi. Je l'ai découvert par mon prof de théâtre quand j'ai commencé des cours dans un conservatoire d'arrondissement. Et on a travaillé dessus. Et c'est vrai que ça a été un des premiers textes sur le théâtre que je lisais et qui, au moment où je commençais à vouloir en faire mon métier et me questionner sur qu'est-ce que c'est qu'un corps sur scène, quel danger, quel intérêt. Enfin, voilà. Et c'est vrai que j'ai découvert cet ouvrage et notamment ce passage-là, il est dans le chapitre « Pour Louis de Funès ». Donc c'est une lettre qu'il adresse à Louis de Funès en expliquant que pour lui, Louis de Funès était cet acteur-là, quoi, qui va sur scène comme un trou noir, qui est vide, qui est du vide encore, on revient au vide. Mais... Et voilà, et c'est vrai que ça a été hyper important parce que je trouve que sur scène, il faut être... dangereux, entre guillemets. C'est-à-dire que je trouve que le corps théâtral, c'est une vraie question à se poser, quoi, quand tu montes sur scène, de qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que j'ai... Ça va aussi avec la question de la singularité, c'est la question politique de voilà, qu'est-ce que j'ai envie de défendre dans la société dans laquelle on vit. Et je trouve, voilà, que c'est partir... J'avais un prof de théâtre qui me disait ça, c'est partir de soi, donc... comme origine, et en même temps partir de soi, quoi, aller ailleurs. Et c'est être... J'ai l'impression que c'est terriblement prendre en compte sa singularité, tous les aspects, et en même temps être une espèce de réceptacle physique qui est là, surtout, de la chair qui travaille et qui dit les mots, qui... Et c'est vrai que du coup, voilà, le texte de Novarina, j'avais envie on a envie de tout lire, parce que tous les passages sont passionnants, quoi.
Et vous avez fait un choix, et quel est le choix de musique, alors ?
Alors, le choix de musique, alors ça va être Serge Gainsbourg, Variation sur Marie-Lou.
Dans son regard absent et son iris absinthe, tandis que Marie-Lou s'amuse à faire des volutes de sèches au menthol entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec le zip de ses lévis, je lis le vice. Et je pense à Carole Lévis. Dans son regard absent et son iris absinthe, tandis que Marilou s'évertue à faire des volutes de sèches ointoles. Entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec son zip, à entrebâiller ses lévis. Dans son regard absent et son iris absinthe, dis-je, je lis le vice de Babydoll et je pense à Lewis Carroll. Regard absent et son iris absinthe, quand crachent les enceintes de la sono lançant accords de cartes et de quintes, tandis que Marilou s'esquinte, la santé s'éreinte à s'envoyer en l'air. Lorsqu'en un songe absurde, Marilou se résorbe, que son coma l'absorbe en pratiques obscures. Sa pupille est absente, mais son iris absinthe, sous ses gestes se teinte d'extase sous-jacente. À son regard, le vice donne un côté salace, du bleu lavasse de sa paire de Lévis, tandis qu'elle exhale un soupir au menthol, ma débile mentale perdue en son exil physique et cérébral joue avec le métal de son zip et l'atoll de corail apparaît. Elle s'y coca-colle un doigt qui en arrêt au bord de la corolle est pris près du calice. Vertige d'Alice de Lewis Carroll.
Le même jour, Barack Obama et Serge Gainsbourg repassent par Pas la peine de crier. Demain, Ava Hervier conclut le déballage de sa bibliothèque. Elle nous lira Jeffrey Eugenides dans le texte Middlesex. En attendant, vivons quelques apparitions d'images, c'est le Polaroid. Sur la nappe en papier, un cadre est dessiné au doigt et directement au ketchup. Aux quatre coins, des fleurs séchées, un véritable autel, des bouts de menu formant un poème d'amour, quelques flèches qui invitent à sortir pour s'embrasser à pleine bouche et à l'air libre. Sur la nappe, on lit « Je suis née en février, mon père avait des semelles de vent, mon frère est au piano, de quoi envisager quelques galettes posthumes. » Sur la table, en plus des fleurs séchées, il y a une corbeille de fruits frais et le numéro du serveur. Quand on l'appelle, il laisse sonner trois fois et répond qu'il a dansé en première partie du groupe Subcrise, il y a des années. On demande comment il était habillé, il dit qu'il avait trop bu, bon. Le café s'appelle Jules Verne. Fut un temps un accordéoniste campait devant les jours pairs. Une sorte d'imbuvable et salopard impresario lui a coupé les ailes en lui faisant croire qu'il était lauréat. Depuis, une plaque célèbre son nom et son souvenir, mais c'est moins musical. Pour en revenir à la nappe, il faut noter, et ce n'est pas négligeable, qu'un billet pour le Brésil est agrafé au coin. Ça sent tellement bon cette histoire. Quelle aubaine. Quelle aubaine d'être passé par là. Fort heureusement, rien n'est signé.
Si tu veux... va par là, n'y va pas, n'y va pas. Si t'es suicidaire, on y va, ne va pas par là. La montagne est blanche et la couche qui recouvre semble fragile à plein d'endroits, ne va pas par là. Le soleil se voile et les gens d'en bas disent, ça ne tiendra pas. Je sais que le bruit qui t'entoure me fait dire tu ne reviendras pas. En mesure l'on glisse vers le soir, les yeux brillent et les questions arrivent en tas. Qui nous guidera? La forêt doucement disparaît, on s'enfonce dans des paquets de neige gonflée, les pentes du galibier. Ça ne tiendra pas. Moi je sais que le bruit qui t'entoure me fait dire tu ne reviendras pas. Il s'est toujours pris pour quelqu'un ou quelqu'une. Il avance et moi je recule. J'ai le front qui hurle. Au col il m'attend sa figure. Ne dis rien, je comprends qu'il va repartir. Sans même un sourire, le soleil se voile et les gens d'en bas disent ça ne tiendra pas. Moi je sais que le bruit qui t'entoure me fait dire tu ne reviendras pas. J'ai perdu sa trace dans la nuit.
Pour ce Polaroid, Miss Chanel choisissait de vous faire entendre un titre de Nicolas Maugan, Le col du galibier. Signalons, en passant, la compilation La Souterraine, publiée par Almost Music, où l'on peut entendre Julien Gasque, Catherine Hershey, Alt, avec une très belle version de Grande Fille, ou encore Moqueux, avec L'ouvrier flanc. Et rappelons que les différents choix musicaux de Miss Chanel se retrouvent sur une playlist, audible via la plateforme Deezer. La playlist s'appelle Pas la peine de crier par numéro 5, et qu'une sélection de choix musicaux, encore quelques titres programmés dans cette séquence Polaroid, est-elle disponible en playlist sur le site rf8.fr. Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, il est 16h, passé de 19 minutes, c'est la deuxième partie de notre émission et le quatrième moment d'une semaine entièrement imaginée autour du mot « but ». Aujourd'hui, le but est de ne pas en prendre, comme on dit. Si nous avons réfléchi lundi à l'idée de projet, mardi à la construction collective et individuelle permettant de marquer au football et hier à la notion de but dans le bouddhisme, aujourd'hui, on passe le reste de l'heure dans les cages ou presque. Le handball est un sport collectif qui voit s'affronter deux équipes de 7 joueurs sur un terrain aux extrémités duquel trônent 2 cages. L'équipe gagnante est celle qui parvient à marquer le plus de buts possible. Jusqu'ici, tout va bien. L'image du gardien ou de la gardienne des cages est celle d'un corps souvent long et paraissant pouvoir s'étirer à l'infini pour épouser et garder la plus grande surface possible. Ce n'est pas rien de dire que le rôle est essentiel. Alors qui et comment garde-t-on les cages? Telle est la question. Comment concentration et défiance de la peur du choc se partagent le terrain pour ce dernier défenseur du camp, seul à pouvoir utiliser ses pieds? Maître Kreis, vous êtes gardien de handball, vous entraînez des joueuses à ce même poste. Bonjour et bienvenue.
Merci, bonjour à vous.
Est-ce que l'on choisit ou est-ce que l'on est désigné gardien de handball?
Alors, c'est une vaste question. Je dirais pour vous répondre que ça dépend un peu de l'âge. En fait, pour entraîner les moins de 13 ans à Massy, à cet âge-là, ou même plus jeune, ils ont tous envie d'aller dans le but parce que c'est le côté décisif qui les intéresse. C'est-à-dire être décisif, c'est-à-dire marquer un but, et être décisif, c'est arrêter le but. Donc, c'est-à-dire toucher le ballon le plus possible. Et quand on est gardien de but, on touche beaucoup de ballons. Voilà, donc ils sont centrés sur le jeu et ça leur plaît beaucoup d'aller dans le but. Donc moi, quand je les entraîne en début d'année, je leur demande qui veut être gardien de but. On fait une liste de 4 gardiens de but, on a fait ça cette année, et on sélectionne ceux qui vont dans le but. Parce que sinon, à chaque entraînement, ils veulent tous aller dans le but, et donc on ne peut pas les former, puisque tout le monde va passer dans le but et ça ne va pas être efficace.
Ce n'est pas du tout la punition alors. Au départ,
cet
étage-là.
Pas du tout. Pour un enfant, pas du tout. Et d'ailleurs, si un gardien de but prend trop de buts, il est tout de suite remplacé. Les autres veulent y aller parce qu'il pénalise l'équipe. Donc, c'est vraiment... Il y a un côté ludique quand même. On touche beaucoup le ballon quand on est enfant. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, si je réponds déjà en partie à votre question.
Et la deuxième étape, est-ce que ça change? C'est-à-dire que si vous entraînez des joueurs un peu plus âgés, qui ont un peu évolué dans leur parcours dans le handball, est-ce que ce désir d'être dans les cages évolue?
Ça évolue parce qu'à partir de, on va dire, 14, 15, 16 ans, les tirs deviennent de plus en plus puissants. Et donc, ça commence à faire mal, en fait. Et donc, cette période-là écrème beaucoup la liste des candidats potentiels. Et donc, il en reste beaucoup moins, déjà. Parce que le ballon fait plus mal, il est plus gros et ça tire plus fort. Voilà, donc déjà, là, ça écrème. Et après, il y a quelque chose d'intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, alors je ne connais pas toutes les statistiques, mais sur les gardiens que je connais, j'en connais au moins 3 qui évoluent actuellement en LNH au premier niveau français en masculin. Et Armel, la gardienne que j'entraîne à ICI Paris, sont des gardiens qui étaient des joueurs de champ. Moi-même aussi, j'étais un joueur de champ jusqu'à 16 ans.
Joueurs de champ, il faut expliquer aux gens que ce sont ceux qui sont à l'œuvre sur le terrain et qui sont de goût. Pas dans les cages.
Qui s'occupe de martyriser les gardiens. Voilà. Et donc, du coup, on a tendance en France, en tout cas, à mettre les meilleurs profils moteurs et les meilleurs joueurs sur le terrain et pas dans les buts. En Suède, par exemple, c'est le contraire. On met vraiment les meilleurs tout de suite dans les buts et le poste est mieux valorisé, je dirais, dans les petites catégories. Alors bien sûr, ça c'est en constante évolution. On commence vraiment à comprendre l'importance du poste. Je milite dès que je rencontre quelqu'un de la fédération pour qu'on crée un diplôme d'entraîneur de gardien de but, ce qui n'existe pas. Donc en fait, on sait qu'au handball, le poste de gardien de but est le poste le plus important, sauf qu'il y a insuffisamment de formateurs et de diplômés pour former ces gardiens de but. Donc voilà, il y a tous ces paradoxes là qui s'entremêlent. Et peut-être qu'un très bon joueur jusqu'à 15-16 ans va faire un meilleur gardien de but parce qu'il aura compris la logique du duel tireur-gardien de but et la logique comportementale, comme on dit à la fédération.
Quand vous commencez le handball, vous le dites, vous êtes plutôt joueur de champ. Oui. Comment se passe le moment où on décide pour vous ou bien vous décidez d'aller dans les cages?
Moi, on a décidé pour moi puisque mon entraîneur, donc en moins de 18 ans, qui est un grand formateur, qui a formé, par exemple, il a formé Lucas Ballot, hein, qui est l'ailier droit de l'équipe de France, mais bien d'autres, une longue liste. Il a décelé que bon, j'avais été sur un match avec l'équipe 2 gardien de but parce qu'il n'y en avait pas. Et il a décelé que bah, je serais plus performant dans les buts. Il a vu tout de suite que bah, je n'étais pas trop doué pour la course, mais par contre, j'avais toutes les autres qualités qui étaient nécessaires pour être gardien de but. Donc, bien vu, parce que je pense que sinon, j'aurais fait une carrière de 3e division.
Sur le champ, si vous étiez resté sur le terrain.
Et là, j'ai pu faire une carrière en j'ai alterné entre la 1ère et la 2e division. J'ai même été sélectionné en France Espoir. Donc, je pense que j'ai fait ma carrière maximum. Que je n'aurais pas fait si j'avais été orienté sur le champ. Donc, bah oui, il faut l'œil du formateur à un moment donné pour dire bah, va plutôt là ou là.
Et pour déceler quelles qualités ? C'est-à-dire, quand vous dites il a vu en moi les qualités nécessaires pour être meilleur gardien que ce que j'aurais pu jouer sur le terrain, quelles sont les qualités nécessaires, voire essentielles, pour être un bon gardien ?
Alors, j'ai envie de dire, la première des choses, je pense qu'on va dire, je vais dire les yeux pour être assez simple, la vision du jeu. C'est le seul poste où il faut vraiment observer 6 adversaires en même temps. Et donc, il faut vraiment sentir le jeu, voir le jeu. Et donc, ça, c'est primordial. C'est primordial. Je pense qu'un gardien peut être performant que s'il voit le jeu, à l'image du demi-centre en attaque. Mais nous, c'est encore plus fin parce que il faut rajouter à ça la perception de la balle. Donc, c'est-à-dire qu'il faut alterner à la fois avec une vision périphérique et une vision centrale. Donc, vision périphérique, donc on voit vraiment jusqu'au côté de l'œil. Et centrale, c'est de voir très précisément le ballon au moment où il arrive et avec une vitesse qui peut aller jusqu'à 120-130 km/h au niveau international.
Là, quand vous parlez de vision de jeu, vous parlez vraiment d'une vision, c'est-à-dire vraiment la qualité de votre vue, quoi. On n'est même pas sur une vision de l'intelligence du jeu. Et c'est vraiment une question de latéralité et de points que vous pouvez avoir chez l'ophtalmo.
Oui, ben moi j'ai été voir un orthoptiste parce que j'estimais que au niveau de la vision centrale, parfois j'étais un petit peu gêné. Et j'ai travaillé donc la vision centrale parce que j'ai une très très bonne vision périphérique. Mais centrale, il fallait que je... Voilà, donc j'ai été jusqu'à aller chez un orthoptiste pour améliorer mes compétences au niveau de la vision. Donc je dirais que pour moi, ça c'est la qualité fondamentale. Alors après, bien sûr, on va rentrer dans les qualités physiques. Il faut être explosif. Il faut être plutôt grand. Avec l'évolution du handball de haut niveau, c'est la taille. Il faut savoir que la cage elle fait 2 mètres de hauteur sur 3 mètres de large. Donc si on fait 2 mètres, ben, on couvre la hauteur déjà. Donc les gardiens internationaux sont au minimum 1 m90. Et aujourd'hui, ça monte jusqu'à 2 mètres, voire plus de 2 mètres pour quelques-uns, mais c'est encore rare. Par exemple, latéralement, j'ai une envergure de 2 mètres. Donc, en gros, je fais 1m95
sur 2
mètres.
Pour ceux qui n'ont pas l'image, vous êtes très grand et vous venez d'ouvrir les bras. Et vos bras, en effet, couvrent beaucoup plus de surface que les miens, que je suis aussi en train d'ouvrir là. Donc, une sorte de capacité d'occuper l'espace.
Exactement. Donc, on parle du volume du gardien de but. Et ce volume, c'est beaucoup avec les mains et les jambes. Et donc là, moi, je peux intervenir sur un volume de 2 mètres autour de moi. Et la cage fait 3 mètres. Donc, l'idée, quand c'est possible, c'est d'avancer. Et donc, avec l'effet, donc c'est un petit peu de la géométrie, tout ça, mais avec le fait d'avancer, la cage derrière ne fait plus que à peu près 2 mètres. Et donc là, on peut couvrir l'essentiel du volume, même on ne couvre pas à 100%, mais on peut couvrir l'essentiel du volume.
Quand vous dites explosif, parce qu'on comprend bien cette idée de garder le plus grand espace devant, en s'avançant d'ailleurs un peu devant les cages, explosif, ça signifie qu'il faut avoir une capacité musculaire, un travail du rebond, un travail du réflexe, un travail du départ qui est beaucoup plus fort que le joueur qui est en champ et qui pourtant, lui, doit aussi déclencher des courses.
Ah ben bien sûr que les joueurs explosifs sont aussi souvent les meilleurs joueurs. Hein, mais je dirais que si on n'est pas explosif au poste de gardien de but, c'est difficile puisqu'il faut réagir à un ensemble d'informations. Et quand on a pris la décision de réagir, il faut aller le plus vite possible. Et les meilleurs gardiens de but au monde sont des gens qui sont très explosifs et qui répondent vite avec leur segment, avec la poussée pour intervenir face au ballon. Donc il faut avoir cette qualité-là.
Mais je réfléchis, j'analyse et ça va très très vite.
Je réfléchis, j'analyse, le cerveau envoie l'information au muscle et le muscle répond le plus vite possible. C'est un peu.
Donc, les yeux, explosifs, être capable de sauter, partir très fort. La taille, quoi d'autre ? Ou est-ce qu'on a fait le tour des qualités essentielles?
Il y a une part de les gardiens de but sont souvent des gens réfléchis, donc il faut avoir une grosse capacité d'analyse. Donc c'est vrai qu'entre gardiens on se comprend bien parce qu'on est très des gens très analytiques. On analyse ce qui se passe, on observe, on analyse, et en fonction de l'analyse, on déduit des tendances qui vont nous aider après dans la vitesse de l'intervention et du jeu à faire le meilleur choix en fait.
C'est Cyril Dumoulin qui dit que le gardien, c'est le sage qui se transforme en guerrier dès qu'il arrive sur le terrain. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On a du mal à imaginer ce qui peut se passer pour le gardien pendant la partie. Est-ce que c'est beaucoup fait d'attente? Est-ce que c'est au contraire une permanence mise en mouvement? Est-ce que c'est beaucoup fait d'observation? Qu'est-ce qui se passe pendant que le jeu est sur le terrain?
En fait, si on part un petit peu plus, là c'est un peu...
Un peu plus technique.
Dans technique, c'est-à-dire que quand j'étais à Dijon, il y avait un stagiaire au centre d'expertise de performance qui avait fait une observation sur le travail du gardien de but et sur les temps de travail. Donc en fait, en moyenne, on va dire pendant une trentaine de secondes, la balle est en attaque. Et ensuite, pendant 30 secondes, le gardien est en activité. Mais cette activité, elle est décomposée par des temps d'attente, des temps de déplacement moyen et des temps de forte explosivité qui durent moins d'une seconde, dont j'ai parlé en fait. Donc pendant les 30 secondes où l'équipe est en attaque, le gardien de but a une forme de relâchement musculaire. Mais au niveau du cerveau, il doit conserver sa concentration ou en tout cas être focalisé. Donc après, chacun fait comme il veut. Mais il ne peut pas complètement... il ne peut pas aller discuter avec quelqu'un ou quoi. Même si de temps en temps, il va boire un petit coup et parler avec l'autre gardien de but, ça lui permet de sortir pour revenir dans sa concentration. Mais en tout cas, au niveau de la concentration, il y a une dépense énergétique très importante. Par contre, après, c'est associé une dépense de concentration plus une dépense physique de déplacement et une phase très, très explosive.
On a parlé tout à l'heure du changement qui se passe entre 13, 14, 15, 16 ans, à partir d'un moment où les tirs deviennent plus forts, mmh. où les joueurs et les joueuses acquièrent une force physique qui fait que quand le ballon arrive dans les cages, il arrive plus vite, il arrive plus fort, et il y a une forme de peur du ballon qui peut s'installer. Mmh. Est-ce que vous avez souvenir de ce moment-là, et est-ce que le ballon, vous en avez encore peur aujourd'hui à l'âge que vous avez et au moment où vous êtes dans votre parcours de sportif?
Alors, j'ai jamais peur du ballon en match, ce qui est une espèce d'abstraction de la peur et abstraction du risque éventuel en match. Par contre, à l'entraînement, ça m'arrive d'avoir peur quand je prends un ballon dans la tête et quand ça peut être un petit peu répété. Il y a une attitude qui est que, de toute façon, tout simplement animale, de protection vis-à-vis du danger, de ce qui peut vous faire mal. Et donc, il y a le réflexe de tourner la tête ou de rentrer la tête. Ce réflexe, je l'observe beaucoup quand j'entraîne au Pôle Espoir à Châtenay-Malabry ou quand j'entraînais dans les Pôles Espoir que j'ai fait. Ça fait partie, je crois que tous les gardiens, ils ont ça en fait.
Et vous allez plutôt contre ça en tant qu'entraîneur, là, si on va plutôt du côté de l'entraînement, où vous dites ça fait partie aussi de ton réflexe.
J'essaye au contraire d'avoir un discours où le gardien de but, l'entraîné, je lui fais comprendre que je comprends en fait
cette peur
que je comprends parce que je connais le poste, et j'essaie de lui donner les outils pour par exemple à l'aile, qui est un angle de tir où il y a le risque augmenté de tirer dans la tête, voire des tirs de pivot quand le pivot est poussé. Il y a possibilité techniquement de mettre le bras juste devant la tête et de protéger sa tête avec une technique de bras. Et ensuite, après, j'essaie de dialoguer autour de ça et de dédramatiser pour faire en sorte que, avec le temps, avec la répétition, avec l'expérience, cette peur diminue et deviennent beaucoup plus rares. Quoi.
C'est une peur qui est un handicap, le fait d'avoir peur du ballon, d'avoir peur du choc du ballon, ou est-ce qu'elle peut être bonne conseillère, cette peur-là?
Ça dépend de la dose. Hein. Je pense que Je ne veux pas parler pour les autres gardiens de but, mais je pense que ça serait un petit peu ne pas être humain dans la part animale qu'on a, de ne pas avoir peur, puisque la peur, c'est fait pour protéger l'intégrité physique. Donc je pense qu'elle existe. Mais par contre, une peur qui serait trop importante est rédhibitoire au poste.
Parce qu'on évite la balle.
Parce qu'on évite la balle, parce qu'on se tourne. Et donc, dans ces cas-là, la balle, elle rentre. Donc, ça se voit, au bout d'un moment, on perd en efficacité, ça se voit, et on perd en plaisir aussi. Donc, voilà, tout le plaisir qu'on pouvait avoir dans ce poste, on le perd parce qu'on a peur. Donc, autant arrêter. Enfin, c'est le cas, par exemple, des skieurs alpins. Je me rappelle plus de son nom, mais il y a un skieur alpin qui a arrêté parce qu'il a avoué qu'il avait peur, parce qu'il s'était gravement blessé. Une fois que la peur est trop présente, prend trop de place, on perd toute notion de plaisir et puis on va vers l'arrêt.
Il tient à quoi ce plaisir, à ce poste-là, vous qui l'enseignez et vous qui l'avez occupé pendant de nombreuses années et l'occupez encore? Quel est le plaisir? Je vous vois sourire, donc il y en a forcément un peu.
Le plaisir, c'est ce côté, alors il y a plusieurs aspects, ce côté décisif, ce côté...
Vous êtes le dernier rempart.
Je suis le dernier rempart, j'ai un rôle très important et grâce à moi... Peut-être que l'équipe, elle peut gagner. Et ça, c'est un plaisir intense. On est responsabilisé, on a beaucoup de responsabilités. C'est parfois dur d'avoir autant de responsabilités, puisque certains entraîneurs disent que le gardien de but représente à peu près 40% de la performance d'une équipe. Donc, un joueur représente 40% de la performance. Donc, il y a ce côté-là. Il y a le fait de remporter son duel. On est dans le duel, donc remporter son duel, réussir à faire déjouer l'adversaire, et c'est assez jouissif, quoi, en fait.
On parlait pendant l'émission consacrée au football mardi de la figure très particulière de l'attaquant au foot qui doit conjuguer son action entre une capacité très très grande d'avancer seul et en même temps une possibilité, une capacité de s'appuyer sur les forces collectives, les forces vives en présence. Est-ce qu'on pourrait dire que le gardien de hand est une figure presque similaire à celui de l'attaquant au football ? Est-ce que vous pourriez dire que, par exemple, vous vous appuyez énormément sur votre défense en même temps que vous vous appuyez sur votre art solitaire et uniquement personnel?
Oui, là-dessus, je vous suis complètement. Après, la comparaison avec l'avant-centre du football, je ne suis pas assez calé en football pour vraiment dire oui, c'est exactement ça. En tout cas, je vous suis sur le fait que c'est un poste qui est entre guillemets individuel dans un sport collectif. Les qualités du gardien de but font qu'il va faire plus ou moins d'arrêts. Mais à l'intérieur des nombres de tirs qu'il reçoit, il y a des tirs où il doit faire la différence tout seul, puisque la défense est battue, et c'est lui qui intervient ou pas, et qui réussit à avoir une action décisive ou pas. Par contre, il y a une portion des tirs, ça dépend des niveaux de compétition, où il y a une collaboration entre la défense et le gardien de but. Et sans cette collaboration, le gardien de but ne peut rien faire. Avec un gardien de but derrière une mauvaise défense, il a beau être l'un des meilleurs du monde, il va être vite mis en difficulté. Donc il y a ce côté-là, ce côté seul et en collaboration. Et en fait, il faut réussir à ne pas se perdre dans trop l'attente et la collaboration avec le collectif. Donc dans ce cas, on s'oublie soi-même. Et dans l'autre côté, trop être seul, tout seul et faire les choses toute seule, mais sans prendre en compte l'aspect défensif et l'aspect de la collaboration. Donc ce juste milieu, ce juste dosage, en fonction de la maturité et de la personnalité du gardien de but, il y a des dosages qui se font un petit peu différemment, mais globalement, il faut réussir à associer ces deux qualités, en fait, et les deux paramètres.
Les arrêts, c'est 50% la défense, 50% le gardien. Vu que la défense était très bien en place, j'avais certains espaces à couvrir pour ne pas prendre des buts, par exemple des buts premier poteau sur les tirs externes, des trucs comme ça. Je voyais tous les ballons, quoi. Je voyais où ils allaient aller, j'anticipais, j'étais sur tous les ballons. Et c'est vrai que parfois, quand on est gardien, on dit qu'on est en chaleur, et je pense qu'à un moment, c'était le cas. Et voilà, je voyais tous les impacts. Et surtout, j'avais l'impression que les buts, ils étaient tout petits et que voilà, je prenais beaucoup plus de place que d'habitude. Mais en tout cas, je pense que c'est parce que aussi les Croates, quand ils ont commencé à être en échec un peu, ils me voyaient peut-être un peu plus grand que ce que j'étais. Moi, je voyais déjà en première mi-temps que les Croates, ils avaient du mal physiquement et au fur et à mesure du match, ils n'arrivaient plus à passer les mecs. Je pense qu'on les a vraiment fait plier physiquement aujourd'hui. Et après, on a été performant en attaque, on a mis des buts. Et je pense qu'une fois qu'on a commencé à prendre 3-4 buts d'avance, ben, ça s'est enchaîné et c'était bien.
Mathieu Kreis, on entend ici la voix de Thierry Omeyer qui, en 2006, revient sur un match gagné en face de l'équipe de Croatie. C'est étrange parce que tout à l'heure, vous avez dit au tout début de l'entretien que la qualité première du gardien, c'était la vue, c'était les yeux. Et probablement que le verbe que vient d'utiliser le plus dans son intervention Thierry Omeyer, c'est voir. Je voyais le jeu, je voyais les trajectoires, je voyais tous les ballons. Quand il dit que on parle parfois d'une chaleur du gardien, ça veut dire quoi?
Ah oui, c'est. Je vais essayer de l'expliquer, mais bon, c'est plutôt quelque chose qu'on ressent et qui est assez. Quand vous disiez qu'est-ce qui attire dans le poste de gardien de but, c'est ça. Enfin, c'est cette sensation étrange qu'on est. Enfin, c'est une forme d'état de grâce en fait, où on a l'impression qu'on peut tout arrêter, qu'on a pris l'ascendant psychologique, parce que là, il parle beaucoup qu'il sentait que les Croates avaient du mal à marquer. Donc, il y a un vrai ascendant psychologique qui se crée. Et quand on a réussi à prendre cet ascendant, c'est là où on revient sur l'aspect jouissif. Et voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné, quand cet état de grâce arrive, on se dit, tous les ballons, je vais tellement savoir l'endroit où ils vont arriver, à la fois sur mon corps, à la fois dans la cage, que évidemment je vais les arrêter. Quelque chose de cet ordre-là, de la toute-puissance qui peut arriver dans un match.
Voilà, toute-puissance, ouais, c'est sûrement le mot. C'est comme ça. Il y a des matchs où on passe complètement au travers parce que, je ne sais pas, ça ne connecte pas au niveau du cerveau et on n'arrive pas à se mettre en confiance et justement à gagner le duel psychologique. Et il y a des matchs où, eh ben oui, c'est comme si on voyait la balle, comme si on avait un don de vision ou un, je ne sais pas comment exprimer ça. Et du coup, c'est génial.
Tout à l'heure, vous avez aussi parlé de comprendre que l'un des enjeux les plus grands était de comprendre la logique du tireur-gardien, logique de duel que vous exprimez là. Est-ce qu'elle passe par de l'intimidation? Est-ce qu'elle passe par apprendre à connaître le jeu de ce tireur-là en l'ayant observé dans d'autres matchs? Par quoi ça passe l'apprentissage de cette logique tireur-gardien?
Après, il y a des principes de base qui sont a priori quand même beaucoup enseignés dans l'épaule. Et en tout cas, il faut aller vers ça. Et puis après, face à un adversaire en particulier, il y a deux choses. Il y a la vidéo, donc tout le travail vidéo qui est énormément, énormément fait par les gardiens de but aujourd'hui au haut niveau, qui représente un gros, gros investissement en temps. Puisque dès qu'on parle de vidéo, ça prend énormément de temps.
Concrètement, ça veut dire je regarde des matchs, je regarde quelle est, je sais pas, la fréquence de tir de ce type-là à tel endroit dans les cages. Exactement. Je le note dans ma tête et quand il se présentera sur le terrain, je pourrai savoir, tiens, toi, tu tires souvent à droite, en haut, après une telle course. C'est comme ça que ça fonctionne.
Exactement comme ça. Donc, ça passe par vidéo, mais maintenant, il y a des outils qui permettent de séquencer les vidéos, c'est-à-dire qu'on a tous les tirs à l'affilée de chacun des joueurs.
Mais qui fait ça? Qui découpe les matchs?
C'est un membre du staff, ou alors des fois il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui récupèrent les images et qui séquencent pour des entraîneurs. Donc voilà, et donc du coup, ça permet d'avoir une vision plus répétitive et de voir plus les tendances grâce à cette forme de séquençage. Après, on peut l'intellectualiser, c'est tout le travail du gardien de but qui faisait avant regarder l'ensemble des vidéos, noter et ensuite réintellectualiser le truc. Maintenant, avec le séquençage, ça, c'est un peu plus flagrant, mais souvent les gardiens de but font des fiches et donc du coup, en fonction des courses, en fonction des lieux de tir, enfin de l'endroit du tir, etc., en fonction de la position du bras ou d'autres paramètres, de la position de la défense, on peut déterminer des tendances et ensuite les retrouver sur le terrain, en particulier dans les moments décisifs de fin de match où les joueurs sont fatigués et font leur tir prioritaire.
Mais ça signifie qu'avant une rencontre, par exemple, un gardien, le soir, va regarder l'ensemble de ses fiches, sait qu'il affronte l'équipe croate et il va feuilleter, il sait qu'il y a tel joueur, tel joueur, tel joueur dans l'équipe croate et il y a tel joueur qui va tirer plutôt comme ça et celui-ci. Et au moment décisif, remobiliser cette connaissance?
Exactement, c'est comme si on était dans une bibliothèque et on choisit le bon livre au bon moment et en choisissant le bon livre, on a la bonne réponse. Mais pour ça, la bibliothèque, il faut l'avoir lu, relu, classé, comprise dans une certaine logique et tout ça revient dans le moment précis. Le seul danger de ça, c'est de trop intellectualiser et de ne pas laisser la place à l'instant présent. Donc ça pose des difficultés aux jeunes gardiens de but qui n'arrivent pas à faire la part des choses entre l'aspect analyse et l'aspect jeu sur le terrain, puisque sur le terrain, le joueur en face peut s'adapter aussi à votre comportement. Si vous êtes trop en train d'anticiper sur ce que vous pensez qui va se passer, il va le voir, il va tirer à l'opposé. Donc, il y a tout un des modes de jeu, il y a tout ensuite des contre-informations qui arrivent et c'est réactualisé à chaque fois. C'est pour ça aussi que l'expérience d'un match à l'autre est importante. Donc, je réponds à votre question à la fin. D'un match à l'autre, c'est important parce qu'on a là, cette mémoire de ce qui s'est passé et dans telle situation, comment moi j'ai agi face à l'adversaire. Parce qu'avant tout, c'est un duel entre deux individus.
Est-ce qu'il y a, de l'autre côté, des joueurs de champ qui visualisent et visionnent des gardiens de but en vidéo ?
De plus en plus. Parce que c'est devenu tellement courant que les gardiens de but visionnent et visualisent qu'à contrario, de plus en plus, les joueurs de champ regardent. Moi, sur mon poste à ICI Paris, on m'a demandé de plus en plus d'analyser le comportement des gardiennes de but adverses. Donc, trouver des tendances, leurs points faibles, et bien sûr répertorier leurs points forts, mais pour amener les tireuses vers les points faibles. Mais après, à nouveau, c'est soumis à l'adaptation qui se fait en cours de match et au fil des matchs. Donc, tout ça, c'est en mouvement. Et donc il faut réanalyser, réactualiser et varier les comportements pour ensuite amener à la performance.
Est-ce qu'il faut être un petit peu fou pour être gardienne ?
C'est ce que la plupart des gens disent et je crois que c'est vrai.
Hein. Pourquoi c'est vrai ?
Parce que se prendre des balles, se faire fusiller à quelques mètres avec quelqu'un qui a une balle... c'est vrai qu'il faut être... c'est même plus du courage à ce moment-là, c'est la folie un peu. En fait, le plus dur, c'est dans les entraînements ou dans ce poste-là, c'est le fait d'avoir cette surface de 2 mètres sur 3 à couvrir derrière. C'est ça le plus dur en vrai. Parce qu'après, tout ce qui est physique dans tous les postes et dans tous les sports, peut-être pas au curling ou j'en sais rien, mais dans tous les sports, tout ce qui est physique, c'est dur. Mais vraiment, ce qu'il y a de plus dur dans ce poste-là, c'est tout ce qu'il y a derrière soi avec, à couvrir avec un tireur qui a un cerveau aussi. Nous, dans le championnat français, en tout cas chez les filles, ou même non, tous les tireurs, je pense qu'ils sont tous stéréotypés, ils ont tous leurs préférences. Et donc là, c'est là où il faut emmagasiner le fait qu'il y en a qui aient plusieurs impacts préférentiels. Il faut emmagasiner les courses, emmagasiner les courses des défenseurs, les contres, enfin c'est ça. Je crois que jusqu'à maintenant, je crois que je doute encore. Je doute encore que je sois vraiment fait pour ce poste-là.
Elle doute encore qu'elle soit vraiment faite pour ce poste-là. C'est Armelle Attingré, gardienne, femme d'une équipe de hand et que vous entraînez. Peut-être passer justement à cette autre fonction que vous occupez et à cette fonction de transmission et d'entraînement auprès notamment de cette jeune joueuse. Par quoi cela passe principalement, ces entraînements ? De quoi sont-ils composés dans l'essence ?
Alors, vous parlez vraiment sur le terrain ?
Ou pas, je ne sais pas, peut-être si vous considérez que l'entraînement d'une gardienne de hand passe plus par, je ne sais pas, discuter, regarder des fiches, regarder l'écran. C'est vraiment à savoir qu'est-ce qui est au cœur de votre formation.
Bon, alors pour moi, y a une insuffisance de formation technique du gardien de but en France. Donc quand moi j'interviens, j'oriente beaucoup mon entraînement sur un aspect technique. Je pense qu'avoir une bonne technique bien solide, ça fait partie, comme un pianiste qui fait ses gammes, ça fait partie de la répétition de l'entraînement, et d'avoir les bonnes réponses techniques, ça permet d'être efficace sur le long terme et dans la régularité. Après, bien sûr, il y a aussi du travail que j'expliquais sur le duel tireur-gardien de but, donc de dialogue, de compréhension, pour que le gardien ou la gardienne de but comprenne la logique du duel. Et puis, il y a ce travail d'analyse dont on a parlé.
Dans ce cas, pardon, je vous coupe, mais vous faites le tireur ou vous prenez une joueuse pour faire la tireuse pendant l'entraînement?
Alors oui, donc il y a des parties d'entraînement où on va mettre des joueuses et on va leur demander d'avoir des impacts préférentiels ou des comportements préférentiels.
Donc répéter des scénarios pour qu'elles s'y habituent.
Et face à ce scénario, il y a une réponse qui est la meilleure réponse face à ce scénario. Et donc, on va répéter ce scénario. Et puis après, on va fermer la situation. Puis on va l'ouvrir petit à petit pour qu'il y ait un peu plus d'incertitude. Mais donc on fait une répétition sans tireur. Et puis après, on arrive sur de la répétition avec tireur. Et situation fermée, avec tireur, situation ouverte. Et ça, ils ont l'habitude de le faire. Ils n'ont pas besoin de moi pour faire un duel tireur-gardien ouvert. Donc, moi, mon job, c'est de vraiment faire préciser les comportements techniques et en fonction de telle ou telle situation de comportement du tireur. Donc, ça part de la technique en allant avec les tireurs et jusqu'à une situation complètement ouverte.
Ouais. Est-ce qu'il y a dans le sport handball et à ce poste-là précisément une spécificité féminine ? Dans le corps, dans par exemple l'appréhension du ballon, est-ce qu'il y a quelque chose que vous sentez pour avoir fréquenté les deux équipes, les deux équipes sexuelles, un côté femme et un côté homme, des différences?
Alors, fondamentalement, je dirais non, parce que les émotions, le rôle, la logique est exactement la même. Après, il y a quand même des petites nuances. J'ai remarqué un petit peu plus de peur de la balle au niveau du visage pour les jeunes filles, même si ça existe bien sûr chez les hommes, mais un peu plus quand même. Donc le côté un peu tête brûlée, un petit peu plus présent chez le public.
C'est-à-dire
masculin.
J'ai pas peur, quoi.
Oui, j'ai pas peur. La testostérone, tout ça, on y va, on fonce. Je m'en fiche, voilà, même si la peur est liée quand même, mais en tout cas, on brave plus cette peur. Voilà, et puis après, y a un côté émotionnel qui est plus fort chez les femmes, donc l'émotion peut parasiter un petit peu plus l'action. Et comme on dit, émotion juste, action juste, la stabilité émotionnelle souvent permet des meilleures performances. Donc, il y a, à mon avis, plus de travail sur la gestion de l'émotion.
Ah oui, et les femmes, elles gèrent moins bien leurs émotions que les hommes.
Alors, c'est un peu une généralité.
Oui, je vous l'accorde.
Il y a des contre-exemples. Quand même.
À l'entraînement, vous remarquez ça?
Plutôt en contexte de match et de sous-pression, en fait. Sous-pression.
Pour justement reparler de cette situation d'entraînement, on a dit à plusieurs reprises que c'était un poste singulier dans la mesure où il était individuel dans un sport collectif. Est-ce que ça s'illustre à l'entraînement, à savoir est-ce que les joueurs de champ ne s'entraînent que collectivement tandis que le gardien ne s'entraîne que seul?
Non, j'ai envie de dire malheureusement, le gardien de but est au service du collectif et des joueurs.
Pourquoi malheureusement?
Parce qu'il perd beaucoup de temps à être au service et à ne pas penser à lui. Or, ce qu'on lui demande, c'est d'être performant. Donc, c'est un petit peu antinomique, paradoxal. Mais en même temps, c'est la logique du nombre. Un entraîneur, il va entraîner, sur un entraînement classique, il va avoir 12 joueurs de champ et 2 gardiens de but. Donc, est-ce qu'on fait un entraînement pour 2 personnes ou plutôt pour 12 personnes? L'entraîneur, en plus, qui est un ancien joueur, va tout de suite s'orienter vers les 12 personnes. Même moi, quand j'entraîne des groupes entiers, on se focalise plus sur l'animation des 12 personnes, obligatoirement. C'est l'effet du groupe, quoi. Donc, il faut, à mon avis, sortir les gardiens de but sur des séances spécifiques, mais on est contraint par les créneaux au petit niveau. Et au niveau, par contre, on peut se permettre de créer des créneaux supplémentaires spécifiques. Et après, il faut se creuser un peu la cervelle pour faire des séances qui intègrent le gardien de but. Donc ça, c'est toute la difficulté des entraîneurs globaux qui ont beaucoup moins d'expérience, même au haut niveau. Ils disent, moi, le gardien de but, c'est pas mon truc, je sais pas faire. Donc, quelque part, tant mieux, parce que ça crée des postes d'entraîneurs pour les entraîneurs gardiens de but.
C'est marrant, ça rappelle quelques questions pédagogiques se rapportant à l'école, se rapportant au collège.
«
À cette heure-ci et en plein terrain de hand, nous lançons la balle poème. Cette semaine, nous écoutons les poèmes de Gilles Heillot et nous feuilletons le recueil Dans le bleu foncé du matin, paru aux éditions Bourgois en 1987. C'est Bruno Raffaelli de la Comédie-Française qui nous lit le poème Chez Hélène. On l'écoute.
Chez Hélène. De l'autre côté de la rue, l'ombre d'une femme, nue. Puisque la vitre est dépolie, se peigne, se répare ou se prépare. Une autre ombre, un homme, s'amalgame à la première. Il veut lui mordre la nuque, je suppose, parce que c'est ce que je voudrais faire. Dans le fond de l'appartement, comme un coucher de soleil, il vespre de la Beata Vergine est intensément tenu à distance par la musique de Monteverdi et ses voix. Ce qui n'était pas, mais faisait la loi, comme l'action ou la jeunesse, et passait, héros sacrifié à grands pas, fleurit seulement dans la réminiscence. Sous l'aveuglement premier, apparaît la richesse obscure des modulations. Que de comparses non aperçues. La vie était comme la lune en plein jour. On ne la voyait pas dans la vide et imprudente lumière du présent. Et maintenant, pour toujours pleure et resplendit le chantre. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Steve. Still doing that shit, Andre?
Oh, for sure.
Yeah.
Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about
it. If you ain't up on things,
Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change.
Still, I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E.
Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give you the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E.
Mathieu Kreis, c'est grâce à vous qu'on se quitte sur ce classique de Dr. Dre. Peut-être comme on est dans cette semaine de but, évidemment inspirée ou contextualisée par la venue prochaine de la Coupe du Monde de football, peut-on discuter de la différence qui existe encore aujourd'hui, peut-être pas pour si longtemps, entre le monde du foot et le monde du hand? C'est quand même une différence effective.
Alors, je ne suis pas un spécialiste à nouveau du monde du football. Non, moi j'insistais sur les différences déjà à la base. Le football, c'est beaucoup une pratique libre et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs que c'est le sport le plus populaire. Il y a peu de contraintes de règles ou alors elles sont très simples. Et le handball, à contrario, c'est quand même un apprentissage de règles important. Donc pour pour le vivre avec les actions au comité de l'Essonne, par exemple, ou sur des publics soit handicapés, soit des publics de jeunes de quartiers difficiles. Cet apprentissage de la règle, c'est incontournable. Et donc, c'est ce qui fait que c'est un sport scolaire et que les enseignants l'apprécient, puisqu'il y a tout un aspect éducatif. Il faut apprendre la règle pour pouvoir jouer à ce sport. Donc, on fait le parallèle avec les règles dans la société. Donc voilà, il y a aussi d'autres sports comme ça où les règles sont très présentes. Je pense au rugby par exemple, sport dont on est très proche, nous handballeurs. Donc voilà, pour moi la différence fondamentale c'est ça. Et puis après, bah, il y a la notion de haut niveau, d'argent, etc., qui est beaucoup moins présente dans le handball, même si avec l'évolution, on tend aussi à nouveau à venir vers ça.
Mathieu Kreis, merci beaucoup d'avoir gardé les cages avec nous cet après-midi pour écouter cette émission franceculture.fr. Vous pourrez vous y abonner au podcast de l'émission qui s'appelle Pas la peine de crier, celui du poème du jour, du Polaroid et de Je déballe ma bibliothèque, tandis qu'Hervé Gardette tâte le mur du studio. C'est bien joué. C'est normal, il faut vérifier que c'est solide. On vous remercie beaucoup pour tous les mots que vous postez sur la page. En ce moment, ils sont gentils et ça fait chaud au cœur. Aux manettes aujourd'hui, c'était Emmanuel Morse d'un camp. Merci à Marie Placet, Céline Geoffroy et Béatrice Leca. Cyril Bert et Nesdi Perron et Romain de Bec de Lièvre qui pensent et préparent cette émission avec moi, une émission réalisée par Anne Chanel.